Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, la traverse, Dumont.
Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le débat conservateur en français, vous avez entendu sur le fait que c'est un peu la dernière chance de bien paraître. Est-ce que ça a été le cas? Visiblement pas. Là. En tout cas pour certains.
Ben, écoute, je vais reprendre l'expression de Paul Larocque qui dit qu'en 4 des 6 joueurs sur la glace, ça peut jouer au hockey, ça fait pas une trop bonne game.
Oui, ils n'ont même pas de patin. Ils n'ont même pas de patin pour suivre.
C'est ça. Mais moi, je pense que ça a été un bon débat en termes de contenu, parce que quand même, Patrick Brown baragouinait assez pour qu'on sache où il s'en va. Je pense que le débat entre Poiliev et Charest était clair. Je pense que c'est un débat, mais je soupçonne que c'est un débat qui va... Un jour, peut-être qu'on va faire référence au débat de Laval. Ça vient sceller un changement de cap idéologique hyper important au Parti conservateur depuis l'époque Harper. Ce parti-là respectait... Tu sais, on respecte la nation québécoise, on reconnaît cette nation, ça veut dire qu'on lui fout la paix de faire ce qu'elle veut sur la laïcité, la langue, ces trucs-là.
On résiste au Québec bashing du National Post. On fait comme si on ne voyait pas ça.
C'est ça. Et hier, ce débat a marqué la fin de cette idéologie au Parti conservateur. C'était notoire. Dès qu'il a été question de langue, ils se sont enfilés là, les uns après les autres pour dénoncer la loi 96. Puis dès qu'il a été question de la loi 21 sur la laïcité, la même chose. Bon, M. Charest a une position un peu moins viscérale puisqu'il est québécois, puis c'est comme en abrument. Mais sur le fond, il y a la même position que M. Trudeau, là, c'est qu'on s'en va à la Cour suprême. Puis il ne restait que Pierre Poilievre, qui disait que non, il n'était pas d'accord avec la loi 21, mais que bon, il laissait Québec faire ses affaires. Et il a changé son fusil d'épaule hier. Alors, il n'y a plus, quand M. Legault se lève en chambre aujourd'hui pour dire qu'il a bon espoir avec un mandat fort aux prochaines élections de trouver une façon, quelqu'un avec qui négocier, ben, il n'y a plus personne avec qui négocier ce droit à la différence.
Mais je vais renchérir en amenant quelque chose de quand même un peu bizarre. Puis je mets en parenthèse que, avant de faire mon point, que, bon, M. Baber, puis qui m'amuse beaucoup, puis Mme Lewis, c'est visible qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au Québec, ce qui se fait au Québec, ce qui se fait à l'Assemblée nationale, l'histoire du Québec, des gens qui savent rien, là, qui partent de zéro. Là. Fait que, c'est quasiment un petit peu gênant de les entendre, mais néanmoins, hier, dans le débat, en particulier pour ces gens-là, il n'y a aucun doute que François Legault, c'est un ennemi. Là. François Legault, c'est un ennemi du Parti conservateur, c'est quelqu'un, c'est une tête. C'est, mettons, comme Jacques Parizeau à l'époque, là, c'était un politicien fédéral. Là, tu comprends, c'est celui qui veut séparer le Canada. Alors, tu te dis, écoutez, les amis, là, il y a 7 mois exactement, ce premier ministre de la deuxième plus grosse province au Canada, province où personne parle en bien des conservateurs jamais, dans les médias, dans les personnalités publiques, ce premier ministre qui a un appui débile de 44% dans sa population, s'est étiré le cou de toutes les manières possibles pour dire du bien d'Erin O'Toole, de son programme, puis d'encourager les Québécois à voter pour lui. Je veux dire, si tu le présentes comme un ennemi, tu vas te retrouver comme le gars qui est embarqué à l'envers sur Métropolitain, là. Tu vas trouver qu'il y en a pas à peu près, là, du monde. Tu comprends? Des ennemis, là. C'est vraiment, moi, tu vois un parti déboussolé, là. Je veux dire, si ton allié précieux d'il y a quelques mois, t'es pas capable de réconcilier ça, de trouver une façon, puis t'en parles comme d'un lâche, d'un bon à rien, OK? Il va te rester qui comme allié au Québec?
Mario, c'est parce que ce monde-là, il parle pas français, puis il savait pas que François Legault avait appuyé Erin O'Toole.
Non, mais je crois ça. Ils savent rien du Québec. Le plus drôle, c'est qu'ils te prouvent de toutes les manières qu'ils savent rien du Québec. Puis à la fin de leur phrase, ils t'expliquent comment faudrait améliorer le français au Québec.
L'expérience la plus enrichissante.
Ah oui.
C'est une réponse sur les chaînes d'approvisionnement.
C'était n'importe quoi.
Si je peux juste me permettre, ça veut dire que le Parti conservateur vient d'embrasser le multiculturalisme à la Trudeau, là.
C'est
ça, je pensais pas voir ça de mon vivant.
À quel point les deux candidats les plus... Bon, on parlait surtout de Jean Charest et Pierre Poilievre, que leur position a évolué ou ils se sont fait prendre sur certains points, parce que Pierre Poilievre, il a pas changé quand même un peu son discours sur certains points?
Bien, sur la loi 21, très certainement. Moi, ça me dit deux choses. De un, que son appui au Québec là-dedans commence à lui faire extrêmement mal en Ontario et qu'il fait le calcul qu'il y a plus à gagner de larguer le Québec qui n'a à en perdre auprès des électeurs des Québécois. Donc, c'est plus important en termes d'appui, puis c'est plus stratégique de changer son fusil d'épaule puis de rentrer dans le rang de la majorité sur la loi 21 auprès du Canada anglais, que c'est payant de continuer à défendre le Québec. Donc, ça nous dit peut-être que ça va pas si bien que ça, sa campagne. Surtout au Québec, peut-être que dans le fond, il n'y a pas tant à perdre que ça au Québec, tu sais.
Ouais, mais il y a là-dessus là, que le changement de cap est majeur là, pour Pierre Poilievre. Reste que il n'a pas répété ses engagements. Tu sais, l'engagement de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, là, c'est un engagement qui est tellement gros, tellement énorme. Normalement, tu devrais le répéter. En fait, si tu le sentais pas controversé, si tu n'étais pas en train de baquer là-dessus, normalement, c'est le genre d'engagement que tu répètes à chaque débat ou dans chaque forum. Là, tu redis un engagement fort. Il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de Bitcoin. Et moi, je portais à y voir un malaise ou un ajustement dans le discours, là.
Oui, ben de toute façon, c'est très clair. Hier, la maison de sondage Abacus a sorti des chiffres. C'est à partir du 6 mai que son taux d'appui à Pierre Poilievre s'est mis à descendre. Donc, il est à 50%, là, puis là, whoosh, son taux d'appui s'est mis à descendre le jour de l'histoire de la Banque du Canada. Puis ça a allumé des voyants rouges. On a recyclé le Bitcoin. Je pense que l'histoire du Forum économique mondial, là, ça, c'est aussi beaucoup la goutte qui a fait déborder le vase parce que il y a des commentateurs très à droite du Canada anglais. Là. Je pense entre autres à Brian Lilly, qui est vraiment pas un grand ami du Québec, là, puis qui est très, 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 très conservateur, mais qui a écrit dans le Toronto Sun, tu sais, qui est le genre de journal là, de la base que recherche Pierre Poilievre. Un des éditoriaux les plus vitrioliques que j'ai lu sur Pierre Poilievre, qui conclut essentiellement, si vous voulez avoir l'air d'être assez sérieux pour être premier ministre, abandonnez your garbage, vos poubelles dignes des trolls d'Internet et des conspirationnistes. Quand tes meilleurs alliés disent ça de toi, là, t'es obligé de faire une petite remise en question.
Mais Emmanuel, on a dans toute cette discussion-là, on a omis le moment le plus important de la soirée.
Ils ont parlé de toi.
Ils ont parlé de toi?
Je le savais que t'allais le
Mario
trouver.
Mario Dumont?
Non, ça a pris
son sens. Pierre Poilievre a mentionné Mario, mesdames et messieurs. Et il a sorti un des grands moments. Puis c'est beau, tu sais pourquoi? Parce qu'il a sorti un des grands moments que Mario a en travers de la gorge. Fait que c'était comme il y avait une vindication de Mario là-dedans.
Ben oui, il parlait pour moi.
Il a remis sur le nez de Jean Charest le moment où Jean Charest avait reproché à Mario de vouloir amener le privé en santé, puis avait brandi une carte de crédit en disant que les Québécois paieraient leur soins de santé avec une carte de crédit.
Mais tu sais que la joke là-dedans, c'est que Jean Charest est rendu pour le privé en santé, là.
Oui, mais c'est pour ça que ça les fait remettre sur...
C'est ce qu'il y a de plus beau.
Il n'y avait rien à répondre à ça. Il est comme resté l'air bête.
Mais il a dit, là, en fait, il a répondu que ça avait changé. Ouais, ça fait 15 ans, puis il y a eu une pandémie depuis ce temps-là, là, mais effectivement. Voilà.
Est-ce que sur les points Bitcoin et compagnie, c'est que là, si Pierre Poilievre s'éloigne de ça, est-ce que dans sa nouvelle base fervent là de toutes ces théories, du Bitcoin, mais là, c'est pas nécessairement une théorie du complot, mais les autres théories loufoques, est-ce qu'il risque là de se retrouver avec des problèmes?
C'est parce que c'est pas simple de même, c'est que souvent c'est qu'à un moment donné, c'est que les roues se mettent à débarquer du carrosse, là. Tu sais, tu dis une chose, t'as dit plus, là, les uns. Fait que tout le monde finit par se dire
que. Hein.
Ben, moi, puis se dire, on peut-tu y faire confiance? T'sais, il dit plus, il a peur de le dire, ah, il fera pas. Là, les gens se disent, ben là, s'il
il
répète.
Est comme les autres.
S'il répète plus, il fera pas, parce qu'il a peur de le dire, il fera jamais. Donc, il est comme les autres. C'est bien résumé. C'est ça le danger pour lui, là, c'est de perdre son espèce d'énergie, sa fermeté, sa force, là.
Ouais, puis on le voyait hier qu'il était beaucoup plus nerveux, moins à l'aise à cause de ça. Mais là, il est comme pris. Moi, je pense qu'il y a quand même le Pierre Poilievre de ses rassemblements, de ses médias sociaux, de tout le Bataclan, là. Puis il y a le Pierre Poilievre qu'on montre au monde normal, à la télé, là. Mais c'est pourquoi là, tu sais, c'est vrai que c'est vendredi le 3 juin qu'on arrête de vendre des cartes de membres. Mais les partis ont du 3 juin jusqu'à la début septembre pour là aller convaincre le monde de changer d'idée. Puis convaincre le monde de changer d'idée.
Ça arrive, là.
Ça fait partie, ben, ça fait partie de d'un des piliers de la stratégie de Jean Charest. Jean Charest, maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il aille voir les électeurs de Les Inuits, qu'il aille voir les électeurs de M. Barber, qu'il aille voir les électeurs de Scott Hitchison, puis qu'il dit, regarde, je comprends que tu m'aimes, je suis pas ton premier choix, mais tu me donnes ton deuxième, tu me donnes ton troisième. Le risque là-dedans, c'est le facteur Patrick Brown. Lui, il fait campagne comme... C'est comme un sous-marin nucléaire, le mec, OK? Personne ne le voit, personne ne l'entend. On ne sait pas il est où, il ne fait pas d'oreille. Lui, là, il se greffe à des rassemblements existants dans les communautés culturelles. Fait que c'est très difficile de jauger la force de son appui. Mais si c'est une aussi grosse machine à vendre des cartes de membres, les appuis entre lui et Charest sont assez des vases communicants. Le problème pour M. Charest, c'est que s'il arrive troisième derrière Brown au premier tour,
là, il est
la
fait,
route là. De la victoire devient impossible.
Parlons du bon dossier d'aide médicale à mourir aujourd'hui. Christian Dubé qui a retiré cet article-là controversé sur les personnes souffrant d'un handicap neuromoteur grave. Là, ça a été dénoncé par l'opposition, voyant ça comme l'improvisation, un lapin du chapeau. Ce qui avait pas d'autre choix, Christian Dubé, que de reculer là-dessus pour empêcher de bloquer ce projet-là?
Ben, il n'y avait pas le choix de reculer, mais la réaction de l'opposition est complètement démesurée. Pour une raison très simple, c'est qu'au Québec, on entretient le mythe que nous, l'aide médicale à mourir, ce n'est pas un droit fondamental à la dignité, à la vie et reconnu par la Cour suprême. Nous, au Québec, l'aide médicale à mourir, c'est un continuum de soins. Et c'est comme ça qu'on l'avait présenté à l'époque pour contourner Ottawa. Mais maintenant, on entretient ce mythe-là et c'est ce qui fait que on refuse d'envisager certains enjeux dans ce débat-là. Alors, c'est comme si on saute une étape. Nous, on est rendu à dire qu'un tiers, quand tu vas être complètement sénile dans ton Alzheimer, va être capable de décider de te donner la mort, même si c'est une démence heureuse ou si tu es content, puis non, parce que tu l'as décidé il y a 25 ans, mais que si tu es un polytraumatisé, handicapé, qui souffre d'une souffrance insupportable, t'as pas le droit à l'aide médicale à mourir, auquel a le droit ton voisin qui, lui, a de la paralysie cérébrale. Alors, si tu souffres de paralysie cérébrale, là, t'as le droit, parce que c'est une maladie. Mais si ton voisin de chambre, qui a une qualité de vie aussi pourrie que toi, qui souffre autant que toi, lui, il aura pas droit, sauf s'il saute dans son char, qui vient se l'obtenir à Ottawa.
Ouais, je comprends, mais je pense que le point, c'est que là, on est dans une circonstance un peu exceptionnelle. On est en fin de session parlementaire. On a quelques jours de session pour adopter déjà une loi sur l'aide médicale à mourir très délicate. On avait un volet là, sur le consentement préalable qui a été étudié de long en large par le groupe de Véronique Yvon, de tous les partis, en fait, des députés de tous les partis depuis 2 ans. Et c'était comme un fruit mûr, là, prêt à amener au Parlement, donc on pouvait adopter en très peu de temps. Mais là, est-ce qu'on pouvait y ajouter un nouvel item pas annoncé, pas étudié?
Et qui est déjà dans les critères permis partout ailleurs au Canada. C'est ça qu'il faut comprendre, là.
Ouais.
C'est l'aide, le suicide, parce que, objectivement, on appelle ça de l'aide médicale à mourir, là, mais C'est ça, c'est défini par des termes dans le code criminel. C'est permis partout ailleurs au Canada. Mais nous, au Québec, on décide que même si le Canada nous a rattrapés, parce que c'est ça qui est arrivé, là, mm-hmm. c'est qui a ouvert la voie, mais même si le Canada nous a rattrapés, mais nous, on va continuer à faire nos affaires à notre façon. Puis on a passé un an et demi à étudier les prochains enjeux de l'aide médicale à mourir. OK? C'est une commission qui a fait un super travail, mais qui a fait ce travail-là avec des œillères en refusant le nez dans le milieu de la figure qui était ce problème-là posé par les handicapés qui, au Québec, n'avaient pas les mêmes droits qu'ailleurs.
Et là, c'est le Collège des médecins qui est comme pris entre l'arbre et l'écorce. Parce que là, il y a ce qui est permis, la loi fédérale, il y a la loi québécoise. Et c'est le Collège des médecins, semble-t-il, qui avait mis beaucoup de pression sur Christian Dubé pour dire là, si tu passes un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, faut que tu nous règles cette contradiction-là.
Mario, tu penses que le 2 octobre, le Collège des médecins sera pas entre l'arbre et l'écorce quand il va pouvoir donner le consentement anticipé à l'aide médicale à mourir et signer ce deal-là?
Mais je pense sincèrement que le sujet, mon point, c'est que je pense que le sujet va revenir, que présentement, dans cette fin de session, ça aurait été délicat, mais moi, j'ai pas de doute que ce sujet-là va revenir, là, une fois l'élection passée. À suivre. Merci, Emmanuel. À demain.
À bien, au revoir.